à tous. C'est l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire, comme tous les premiers mercredis du mois.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde va bien?
Bon, ça fait longtemps.
Ça fait un bail. Je vous rappelle, du coup, bien sûr, on est sur Radio Galère 88.4 FM à Marseille et radiogalère.org.
Oula, 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 oula.
Non, c'est ça, radiogalère.org.
Ouais, on t'entend pas bien.
Ok, est-ce qu'on m'entend mieux? Ouais, c'est pas ouf.
Ouais.
Ok, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on écoutera un entretien qu'on a réalisé avec deux personnes qui sont issues de collectifs, donc un collectif québécois et un collectif suisse, des collectifs de solidarité internationale avec la Colombie. Ça, c'était à l'occasion de la diffusion du documentaire « Un nuevo país nace desde las barricadas » et c'était à Manifesten en janvier dernier. Alors, on parlera de solidarité internationale et du mouvement social colombien de 2021 et de la répression qui en a suivi.
Alors, on voulait juste un peu vous recontextualiser l'espace là. Et donc, je veux dire, vous recontextualiser le documentaire et en l'occurrence ce qui s'est passé en Colombie. Et donc en Colombie, c'est passé le 28 avril 2021, qui reste quand même une date gravée dans l'histoire comme étant le début du paro national. Et paro national, ça veut dire blocage national. Des réformes fiscales et l'arrogance du gouvernement ont déclenché une mobilisation nationale d'envergure avec des manifestations, des blocages de routes, et des blocages de villes pendant des semaines, avec des points de blocage devenant des points de rassemblement de toutes sortes. Ça peut aussi nous rappeler ce que le mouvement des Gilets jaunes, mais ça n'a pas du tout été, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Donc on se rappelle de ce paro pour sa résistance inspirante, mais également pour ses 80 morts et mortes et près de 300 disparus, ou encore de ses centres de torture dans des hangars d'épicerie. Donc pour juste, on veut vous lire aussi le résumé du documentaire. Donc, le titre traduit, c'est « Un nouveau pays est né des barricades ». Et c'est un documentaire qui retrace un peu le contexte et le développement de ce soulèvement populaire, donc le paro national, qu'a connu la Colombie depuis la grève nationale du 28 avril 2021, en approfondissant sur la répression perpétrée par l'État, selon sa doctrine militaire, qui considère le mouvement social comme le nouvel ennemi interne. Donc ce documentaire, il a été réalisé par quelqu'un qui s'appelle David Guevara et il a été produit par le CEDENS. Alors je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas cherché. C'est pas bien.
Je sais pas non plus.
Et zut. Donc il rassemble différents témoignages de jeunes impliqués dans la lutte de la rue et la voix des défenseurs et des défenseuses des droits humains, des chercheurs et des chercheuses, des experts et des expertes en doctrine militaire. Donc ce documentaire, il a été filmé dans la ville de Cali et de Bogota et il documente une multiplicité de scénarios de protestation sociale en exposant un regard sur le moment de ce bouleversement social que connaît donc la Colombie face aux inégalités et à la répression, laissant ainsi découvrir un nouveau pays qui se lève au milieu des barricades, des quartiers populaires, qui réclame une réelle démocratie et une vie digne. Donc ça, c'est le résumé du documentaire. Et on vous propose maintenant d'écouter l'entretien qu'on a fait avec les personnes présentes pour la présentation de ce documentaire à Manifesten en janvier de cette année.
Alors moi, je fais partie d'un collectif de base qui s'appelle le Projet Accompagnement Solidarité Colombie, qui est basé au Québec depuis presque une vingtaine d'années. Et en fait, ce collectif de solidarité avec la Colombie s'inscrit dans des luttes qui ont lieu au Québec, au Nord, dans lesquelles on est impliqué contre les projets extractifs, les méga-projets, contre le capitalisme en général, contre le patriarcat, bon, toutes sortes de choses qu'on fait. Et ça, on l'a mis en lien dans une proposition de solidarité directe avec des organisations en Colombie, ce qui nous a amené à faire partie d'un réseau, la Red Hermandad y Solidaridad con Colombia, qui est un réseau international et en Colombie. Et internationalement, il y a beaucoup de groupes qui sont en Europe, d'où le fait qu'il y a des liens, notamment avec des groupes francophones en France, en Suisse, en Belgique et d'autres groupes, Angleterre, Italie, Espagne, etc.
Et moi, je suis parti d'un groupe qui s'appelle Saiba Vieja, qui est un groupe qui est parti donc de ce réseau qui est la Red Hermandad y Solidaridad con Colombia, qui est un groupe basé à Genève, en Suisse, qui était à la base un groupe, je dirais, affinitaire, de gens qui étaient un peu autour des histoires de bibliothèques autogérées dans les squats, qui s'est retrouvé lié à la Colombie par un ami qui était lui-même dans ce réseau en Colombie et qui a fait lien politique entre nos projets à nous en Suisse et ce qui se passait là-bas. C'est un projet qui nous a plu aussi parce que c'est un projet de solidarité qui est alimenté depuis là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons décidé que c'était joli la Colombie et qu'on allait en vacances là-bas, mais qu'il y avait un projet politique qui nous correspondait et que là-bas, les gens avaient un rôle pour les personnes avec un autre passeport pour venir. Et donc, on jouait avec ça.
Tu dis que c'est parti des luttes contre l'extractivisme. Il y a eu une lutte en particulier où,
Alors, il y a eu plusieurs luttes. Nous, on est nés dans l'époque anti-globalisation, les sommets des Amériques, les sommets contre l'OMC. Donc, toute cette idée de faire le lien de la globalisation, des luttes, etc. Et au Canada, il y a deux particularités. Une, c'est que c'est un territoire dont on parle de terres volées, puisqu'en fait, il y a certaines terres qui sont sous-traitées avec les peuples autochtones. Et la majorité du territoire canadien, en fait, c'est des terres qui ont été volées légalement et que si le Canada respectait même les lois internationales, c'est super gentil, là, et tout ça, ils devraient fermer boutique parce qu'ils n'auraient jamais comment rembourser les peuples autochtones de tout ce qu'ils leur doivent parce qu'ils sortent des minerais, du pétrole et tout ça. Donc, ce n'est pas un projet en particulier. En ce moment, il y a des projets en particulier qui sont des gros projets de l'éoduc avec des blocages à plein d'endroits au Canada, etc. Mais il y en a eu plein d'autres au travers des 20 dernières années. Et parallèlement, le Canada est donc un paradis pour les minières et les pétrolières au niveau international. Donc 80% des sociétés extractives, même si elles ne sont pas vraiment canadiennes, ont leur siège social au Canada parce qu'elles sont à la Bourse de Toronto, qui est un peu le paradis juridique et fiscal pour les sociétés extractives. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est un sujet qui est très important parce que ben, en fait, des gens sont déplacés sur leur territoire, il y a des luttes, il y a des blocages au nord et au sud, et souvent ça nous permet, dans le contexte de la Colombie où les choses sont beaucoup plus exacerbées, disons graves entre guillemets, de ce qui se passe en termes de destruction de territoire, en termes d'assassinat, en termes de répression et tout ça, ça permet de faire le lien avec ce qui se passe. Et pour nous, faire ce lien, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de comprendre que c'est un système, que c'est pas juste qu'il y a une entreprise qui est pas gentille, il y a un arbre qui est joli, mais qu'il y a un problème systémique à la destruction et des tissus sociaux, de la relation avec les territoires et la nature et tout ça. Et on s'est beaucoup inspiré des luttes colombiennes dans les dernières années, à aller faire des séjours là-bas, à passer du temps là-bas et à s'inspirer d'une façon de comprendre les luttes qui nous a permis de transposer ça au nord aussi. Par exemple, en Colombie, c'est normal qu'un syndicat des travailleurs du pétrole trouve important de militer avec une communauté autochtone qui est contre l'extraction, même si ça leur offre du boulot. Parce qu'il y a des syndicats qui réfléchissent au fait, ben en fait, on est sur la même planète. Et si au nom d'avoir des emplois, ben on détruit tout, ça marche pas. Donc, par exemple, des trucs qui n'étaient pas du tout évidents au Canada. Et on a trouvé les mots ou les façons de raconter ces histoires pour appuyer parfois des alliés qui pouvaient être dans ces secteurs-là de militants, par exemple, et faire les liens. Je donne un exemple, mais il y en a plein d'autres sur plein de trucs. Quand on parle de faire de l'accompagnement ou accompagnement international, qui est la figure qu'on utilise pour dire qu'on va faire des séjours internationalistes en Colombie, qu'on utilise un passeport canadien, un passeport français, un passeport suisse, voilà, peu importe, un passeport du Nord global, avec très souvent, quand même, il faut le dire, des gens qui sont blancs qui les ont, pas toujours, mais quand même très souvent. Et on utilise cette contradiction qu'il y a des passeports, donc des gens qui sont nés à un endroit, et parce qu'ils sont nés à un endroit, c'est comme si leur vie ou leur point de vue ou peu importe valait plus aux yeux des autorités. Donc pas aux yeux de tout le monde, mais aux yeux des autorités. Donc on utilise cette contradiction-là pour créer de l'espace pour les luttes. Donc par exemple, accompagner les legal teams sur le terrain, dans des manifs et tout ça, ben, ça permet d'éviter que des gens se fassent disparaître par la police et donc meurent et ce genre de trucs. Ça permet d'éviter une incursion militaire ou paramilitaire dans un village. Ça permet toutes sortes de choses. Alors après, on ne fait pas juste ça. On fait cet accompagnement-là qui est plus basé sur les choses, en fait, sur l'antirépression. Mais comment qu'on appelle l'antirépression en Colombie, c'est... les droits humains en général, le respect des droits humains, etc. Parce que finalement, c'est la même chose, c'est juste des mots différents qu'on utilise pour parler de la même affaire. Mais on fait aussi des échanges sur d'autres choses, comme l'agroécologie, comme des luttes femmes féministes, ou des trucs de médias alternatifs, qui est une des façons les plus simples peut-être de s'intégrer ou d'entrer en échange, surtout pour les premières fois, avec des organisations sociales, des mouvements en lutte ailleurs. T'arrives, t'as une caméra, t'as une enregistreuse, tu fais de la radio, c'est un truc simple pour militer avec les gens et faire ensemble des reportages et les diffuser ou les traduire et tout ça. Donc c'est beaucoup plus souvent ça qu'autre chose, parce que voilà, l'agroécologie tout de suite c'est plus compliqué, c'est bien, mais il faut savoir faire, et puis ensuite il faut s'adapter à des conditions climatiques super différentes et tout, tu vois, ça demande un engagement de plus longtemps que prendre ta caméra et filmer un truc. Mais ça se base sur cette contradiction là beaucoup. Alors on n'est pas les seuls à faire des échanges internationalistes, il y a aussi du monde d'Amérique latine, il y a aussi d'autres façons de le faire, il y a de la place pour tout ça, mais beaucoup de la partie un peu protection, disons, du rôle que tu peux avoir là-bas, c'est là-dessus. Et je pense que c'est une contradiction à laquelle ça n'a pas été simple de nous confronter là-bas. Et je pense que, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus.
Sur la contradiction ?
Ouais.
Non, par contre, ce qu'on peut... On a constaté, enfin tout le monde qui a fait des accompagnements a constaté réellement que, c'est moche à dire, mais que la présence effectivement de personnes avec un autre passeport changeait drastiquement les conditions. La dernière fois que j'y étais, par exemple, on a intervenu sur une expulsion de terrain occupé, situation qu'on pourra peut-être préciser tout à l'heure. Donc une expulsion d'un terrain occupé, donc la police est en train de les évacuer, ils étaient en train littéralement de tirer sur les gens à balles au caoutchouc et à balles réelles, et tout d'un coup le fait qu'on débarque avec nos petits gilets droits humains, une apparence de blanc et qu'on a l'air un peu présentable et respectable pour eux, ça a complètement changé le rapport de force, ça a complètement changé l'attitude de la police, et ça a même empêché l'expulsion de la moitié du terrain au bout d'un mois de lutte, quoi. Donc des petites choses, des petites expériences comme ça que tout le monde peut raconter à son retour, ou alors même un autre type, on s'est aperçu aussi que des fois ça rien que de voir des gens qui viennent d'ailleurs, ça les motive, ça donne l'idée d'un soutien international, du coup qui peut je sais pas ce que ça projette dans la tête de chaque personne, mais en tout cas ça motive. Il y a pas mal de luttes où les gens disent le fait qu'on ait ce soutien international nous a permis de tenir la lutte, même si ce soutien international c'était trois personnes comme nous, pas plus, quoi.
Quand vous êtes dans vos pays respectifs, ça peut être quoi les formes de solidarité que vous pouvez qui peuvent être mises en place ?
Alors, à notre échelle, nous, on fait beaucoup de traduction, diffusion d'informations comme des soirées publiques, diffusion de textes, diffusion de vidéos, bon, incidence politique et travail contre les entreprises qui ont le siège chez nous, quoi. Il y a aussi quand même beaucoup de choses qui sont en lien avec des Colombiens, Colombiennes qui viennent en visite ici, donc on vient d'accueil pour faire des conférences, des discussions, des traductions, enfin des incidences politiques, tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi l'occasion de mettre directement en lien des gens, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer tel syndicat, tel groupe politique, tel autre. Et pour beaucoup, beaucoup qui n'ont jamais pu venir en Europe avant, ça leur permet de voir une autre face de l'Europe. S'apercevoir que tout le monde n'habite pas en bas de la tour Eiffel avec un gros lingot d'or dans sa poche, et qu'il y a plein de gens qui se démerdent autrement, ce qui déconstruit pas mal l'imaginaire européen, et qui est assez intéressant. Il y a des gens qui sont nés il y a 15 ans en Europe et qui, quand tu les rencontres maintenant, ils se rappellent encore de ça, et ça a vraiment déconstruit leur rapport au développement, à leur approche, à la façon de voir les choses, et puis de penser que c'est vraiment ça la perfection.
Ouais, nous on fait un peu tout ça, donc la partie plus incidence, on s'assure que l'ambassade canadienne en Colombie sache de notre présence, quand on trouve dans les institutions des personnes un peu alliées, disons, qui ont un bagage qui leur permettent de comprendre un peu c'est quoi les enjeux, on s'assure de les maintenir au courant et tout, pas parce qu'on pense que l'État canadien demain va se réveiller, va dire « oh c'est mal ce que je fais », non, mais parce que ça ouvre de l'espace, ça crée de la protection, ça crée de la légitimité pour des luttes dans des moments où tu fais face à de la répression ou des trucs comme ça. C'est pas l'essentiel de ce qu'on fait, mais on fait beaucoup ça en coalition avec d'autres organismes au niveau de ce qu'on appelle l'État canadien. Après, on fait beaucoup de sensibilisation, justement, ça, comme j'aime mettre en lien les luttes. Donc ça peut effectivement être sur une entreprise, ça peut être sur des investissements, donc par exemple la caisse de retraite du Québec qui s'appelle le fonds de pension. Investi dans le méga barrage qui est en train de tuer une rivière au complet qui s'appelle Hidroituango. Donc ça, c'était une grosse campagne en coalition. Notamment, il y a des gens qui luttent contre des barrages au Canada aussi. Donc faire ce lien-là, par exemple, ça, c'est des trucs concrets. Et beaucoup, nous, ce qu'on appelle éducation populaire, c'est-à-dire ramener nos expériences. Donc par exemple, beaucoup de fois, les gens, quand ils reviennent de Colombie, ce qu'on propose, c'est que selon leur capacité, ils puissent faire un projet. Donc que ce soit une exposition de photos, que ce soit un documentaire, que ce soit une pièce de théâtre, parce qu'on en a, que ce soit un récit plus romancé, essayer de partager. Donc on parle, et puis à travers les années, on est passé par plein de choses. On a parlé du biodiesel, on a parlé des prisonniers et prisonnières politiques, des discussions anticarcérales, on a parlé de la question du pouvoir populaire sur les territoires, de comment tu t'autogères sur un territoire, de c'est quoi les types d'autorité communautaire que tu mets en place pour t'organiser, de comment ça t'inspire, de comment il y a des alternatives. Si tu veux pas de police sur ton territoire, peut-être que tu peux réfléchir à un système d'autoprotection comme sont les gardes autochtones, les gardes paysannes, les gardes afro qui sont super actives en Colombie. Donc ça permet aussi de générer des imaginaires communs. Donc au-delà des activités formelles que tu fais, en fait, c'est ce dialogue. Ça donne la pêche de quand t'es ici, puis que peut-être t'es dans le trou entre deux moments de lutte intense, et peut-être que t'es fatigué, peut-être que c'est difficile. Tu vois que les gens, ils ont super la pêche en Colombie, et qu'il y a des grèves partout, et que c'est la folie. Ça te motive pour ce que tu fais. Et là-bas, c'est pareil. Savoir qu'en France, il n'y a pas juste la Tour Eiffel, et que c'est pas loin de l'ONU en Suisse, et du Parlement à Bruxelles, mais qu'il y a aussi des gens sur des territoires qui ont décidé que la paysannerie, c'était pas fini, et qu'on allait continuer, qu'il y a des gens qui squattent, qu'il y a des gens qui s'organisent pour donner la bienvenue aux réfugiés, qu'il n'y a pas juste des gens qui meurent dans la Méditerranée, tout le monde s'en fout, mais qu'il y a aussi des gens qui ne s'en foutent pas. Que les gens sachent ça en Colombie, ça donne aussi la pêche, parce que ça permet de savoir que tu n'es pas tout seul à te battre pour récupérer un terrain parce que tu n'as plus nulle part où vivre. Mais en fait, ça te permet de comprendre qu'il y a un système global, économique, et qu'il y a des gens partout dans le monde qui sont contre ça. Et ça, c'est un peu la base de l'internationalisme, ce qui donne un sens, en fait. C'est que ça te fait sentir que t'inscris ta lutte dans un truc plus large. Il y a des fois des gens, ils reviennent pas, ils continuent pas nécessairement à être dans les trucs seulement de solidarité, parce que t'es dans plein d'autres choses. Donc des fois t'es allé en Colombie, t'as fait ça quelques années, t'es encore en lien, ça t'intéresse, mais tu fais autre chose. Puis c'est bien aussi, parce qu'en fait t'amènes tout ce bagage là dans ces autres choses que tu fais. Après, il y a des trucs concrets aussi, par exemple, puis on va en parler après, mais il vient d'y avoir une grosse grève en Colombie. Il y a beaucoup de choses terribles qui sont passées en termes de répression dans ce cadre-là, notamment des centres de détention illégaux qui sont convertis en centres de torture par la police colombienne, qui ont été faites dans les locaux d'une chaîne de magasins qui s'appelle Éxito et qui est la propriété du groupe Casino. Donc, par exemple, des trucs concrets, il y a des gens qui proposent pour le 28 avril, qui va être l'anniversaire des grandes mobilisations, d'organiser des actions face au casino en disant, voilà, il y a les centres de torture en Colombie, quoi, tu sais, ou d'essayer de faire ça à plusieurs endroits, par exemple, où est-ce qu'il y a des carrefours et des casinos, ou ce genre de trucs. Tu vois, ça peut être des trucs concrets, ponctuels, qui peuvent mobiliser d'autres groupes qui sont pas nécessairement juste là-dessus. Ou par exemple, je sais pas, il y a des mobilisations sur Monsanto. Bon, Monsanto, ils n'en peuvent plus en Colombie, entre les semences transgéniques, le glyphosate pour fumiguer et dans les campagnes, ça fait des années, c'est des catastrophes. Il y a des liens à faire aussi, en tout cas sur plein d'autres luttes qui ont lieu ici, il y a des liens à faire qui peuvent être ponctuels ou des gens qui vont s'y intéresser plus à long terme, quoi.
Il y a aussi, par exemple, il y a des gens qui viennent avec un projet précis, par exemple de travailler la terre, donc des gens qui ont une formation autour de l'agriculture en Europe, qui viennent bosser là-bas, soit apporter un savoir ou essayer d'amener le savoir là-bas, soit juste se mettre dans un travail d'une ferme, d'un type de récolte sur place, à Cali ou dans d'autres régions. Et il y a aussi des gens qui accompagnent, par exemple, ça se fait beaucoup, les comités de solidarité avec les prisonniers politiques, c'est comme ça qu'on dit là-bas. Du coup, tu accompagnes le groupe, tu fais des visites en prison. Selon ton niveau de langue, selon le temps que tu restes, comment tu fais plus ou moins d'autres choses aussi. Il y a aussi beaucoup l'accompagnement dans les manifs, dans des mobilisations, où là, tu es avec ton gilet droits humains, et puis tu sers, comme c'était expliqué tout à l'heure, de protection un peu pour pas que les gens aient des soucis. On peut aussi le faire en documentant la lutte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme expérience ? Bon, il y a aussi, bon...
juridique, les juridique. Gens qui sont plus en étudié droit international ou ce genre de trucs.
Et aussi, bon, comme on était alors beaucoup d'automédia, c'est-à-dire que tu vas dans une zone, tu fais, t'écris des articles, tu fais des radios, tu fais des petits films. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités de ouf pour aller faire un accompagnement. On trouve toujours un truc à faire et on peut venir pour plein de mois comme pour juste quelques semaines accompagner. On trouve vraiment, on arrive vraiment à trouver des choses pour s'adapter. Et ce que je trouve assez emballant, si je peux dire, c'est que c'est un réseau qui est vraiment disséminé sur tout le territoire. Et du coup, tu peux aussi bien te retrouver avec les pêcheurs du Sud-Est qu'avec le groupe de femmes à Bogota ou les gens qui luttent contre une mine dans le Nord-Est, quoi.
Les derniers mois, ça, c'est le 28 avril 2021. Le mot qui est utilisé, si on traduit littéralement, c'est une explosion sociale. Et ça, donc, dans le fond, ça a débouché sur des grosses mobilisations. Disons, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, le niveau de guerre... Bon, il faut savoir qu'en Colombie, il y a une guerre, il y a un conflit qui est social, qui est politique, mais qui a aussi un caractère armé. De par le fait qu'il existe des groupes insurgés, armés, révolutionnaires, tout ça, mais aussi armés parce que l'État fait la guerre aux mouvements sociaux sur un mode guerrier, assassinat, tout ça, avec une stratégie judiciaire, une stratégie militaire, mais aussi ce qu'on appelle la guerre sale, donc une stratégie paramilitaire d'assassinat ciblé, tout ça, supposément par des groupes qui ne seraient pas en lien avec le gouvernement, mais qui finalement le sont. Et les preuves s'accumulent depuis des décennies, tout le monde s'en fout. C'est des stratégies qui ont été pensées depuis les États-Unis, à l'école des Amériques, qui ont été appliquées dans à peu près toute la planète, pour, à l'époque, endiguer le communisme, ensuite endiguer ce qu'ils appellent le terrorisme, bon, peu importe le mot qu'ils mettent, mais cette espèce de guerre systématique contre tout autre modèle. Finalement, c'est la guerre que le capitalisme fait sur tous les territoires, donc elle a sa forme colombienne, mais c'est un truc qu'on pourrait raconter dans plein d'autres endroits du monde. Et donc dans ce contexte-là, en 2008, les premières fois, il y a des peuples autochtones du sud de la Colombie qui sont organisés dans ce qu'ils ont appelé une minga et qui ont commencé à faire une grande marche vers Bogota plusieurs fois sur plusieurs années en disant voilà, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux et même si on a un niveau de guerre impossible contre nous, on va quand même se mobiliser. Ça a remotivé les étudiants et étudiantes qui ont fait une grosse grève en 2011, ça a remotivé plein de monde dans les secteurs paysans qui n'en pouvaient plus des accords de libre-échange, du fait qu'on leur disait qu'ils ne pouvaient plus semer leurs semences et qu'il fallait donc qu'ils les achètent à Monsanto et compagnie pour respecter les accords de libre-échange et pouvoir vendre leur production, par exemple, et tout ça. Donc il y a eu toute une série de ce qu'on appelle des paros, donc c'est des grèves qu'on pourrait appeler des grèves sociales, parce que ce n'est pas une grève au sens travailleur-employeur, mais il y a des blocages dans plusieurs régions, ça dure un certain temps, etc. Donc il y a eu une espèce de construction et une recherche volontaire d'unité, c'est-à-dire essayer de faire l'alliance entre les secteurs des communautés afro-descendantes, autochtones, paysannes, essayer de faire le lien avec des secteurs de syndicaux, de travailleurs, pour essayer de faire de rendre possible qu'à un moment donné, il y ait une vraie grève générale de tout le monde. Et dans cette espèce de mayonnaise qui a commencé à monter, pour prendre n'importe quelle métaphore, en 2019, ça a vraiment pris fort, quoi. Et ça faisait des semaines que tout le monde était dans les rues, tous les soirs. Ils avaient déclaré des couvre-feux, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans. Parce que ben là, maintenant, ça va aller normal, les couvre-feux, les confinements, mais ce n'était pas normal il y a 2 ans. Et quand le confinement arrive, en fait, ça a coupé sec ce momentum en fait, qui était en train de se vivre. Donc, ensuite, on a vu que bah, les conditions de vie ont empiré. Les gens ne pouvaient plus payer leur loyer, d'où le fait qu'on s'est retrouvés sur plein de situations d'expulsion et tout ça, de reprise de terrain et tout ça. Et en 2021, le gouvernement a décidé de faire une réforme fiscale qui, en gros, voulait dire que le produit de base, la bouffe, allait augmenter, allait prendre 20%, quoi. En plus qu'elle avait déjà augmenté vraiment beaucoup. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a eu au début déclaré une journée de manif, mais en fait ça n'a pas arrêté là. Ça c'est parti et il y a eu tout de suite eu une répression très très forte. Et en fait, je pense que les 5 premiers jours, on s'est pris 20 morts, quoi. Et en fait, les gens, ils ont dit non, mais il n'y a pas moyen. Ils ont continué à se mobiliser vraiment fort, mais alors là, avec barricades dans les quartiers populaires. Historiquement, c'est beaucoup plus rural, c'est devenu un peu plus urbain. En tout cas, pas plus urbain, mais c'est-à-dire que le caractère urbain était la nouveauté de ces jeunes de quartier qui ont juste rien à bouffer, pas de futur, pas d'accès à l'éducation, pas d'emploi, tout ça. En plus, la pandémie, tu vois, les conditions qui exagèrent. Et puis, le gouvernement, au bout de quelques jours, a dit « Bon, d'accord, on va pas passer la réforme fiscale. » Puis les gens, ils ont dit « Non, mais en fait, on est déjà dans la rue, on y reste. » Parce que, en fait, à part la bouffe, il y a tel autre problème. Il y a la santé, l'éducation, c'est tout le modèle qui va pas, quoi. Et donc, ça a fait des très, très grosses mobilisations qui ont duré des semaines avec une très forte répression. On parle de quasiment 4000 personnes qui ont été arrêtées à un moment ou à un autre, pas toutes judiciarisées, mais quand même beaucoup. On parle de 80 morts, on parle qu'il y a encore une centaine de disparus. On parle du fait qu'il y a des civils protégés par la police qui sont allés tirer dans le tas à plusieurs reprises. Donc ça, il y avait des mobilisations rurale, urbaine, etc. Donc ça a fait un gros truc qui a aussi fait un truc de plein de gens nouveaux qui débarquent dans les mobilisations, plein de nouvelles formes de s'organiser, notamment les fameuses premières lignes, donc qui sont cette espèce de ligne de défense à l'avant avec des boucliers multicolores pour qui a vu les images. Et tout ça va essayer de s'organiser dans des assemblées populaires, dans une articulation entre assemblées populaires. On va récupérer des postes de quartier de police pour en faire des bibliothèques. Bon, il y a toutes sortes de choses qui vont avoir lieu, des hôpitaux de campagne, parce que tu peux pas aller à l'hôpital sinon tu te fais arrêter par la police. Donc, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des gens qui sont un peu médics et tout, qui s'organisent pour faire ça. La soupe populaire, à un moment donné, tu avais un truc où les gens pouvaient pas lever le point de mobilisation, parce qu'en fait, il n'y avait pas un chez nous où rentrer et manger et être au chaud. Puis en fait, l'endroit où vivre, c'était ce lieu de mobilisation et ce point de concentration. Fait que ça et plein d'autres choses sont arrivées pendant ces mois-là. Alors c'est ça, il n'y a pas nécessairement une grande victoire à déclarer finalement, parce qu'en fait, la victoire contre la réforme d'origine est arrivée assez rapidement et la mobilisation a continué pendant longtemps. En ce moment, il y a ces tissus sociaux donc, qui ont été irrigués par cette activité-là, qui continue à exister, d'autres types de relations dans plein de quartiers, dans plein de régions. Il y a faire face à beaucoup de judiciarisation et là, toute la répression qui vient après ce genre de gros mouvement aussi. Ouais. J'ai oublié quoi ?
On pourrait juste rajouter que, en fait, pendant plusieurs semaines, le pays a été complètement bloqué. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est... là-bas, ce qu'on appelle les grèves, ça s'appelle les paros, donc c'est on bloque, on arrête, donc c'est on bloque les axes. Effectivement, c'est souvent rural, là c'était rural et en ville. Et c'est en Colombie, il y a pas 1000 routes, il y a beaucoup de gros axes. Du coup, tu bloques ces gros axes, tu bloques vraiment beaucoup de choses. Et là, ils ont vraiment bloqué le pays, je dirais plusieurs semaines, mais vraiment bloqué les gros axes. Le port de Buenaventura, qui est le gros port sur le Pacifique, qui est l'arrivée principale des marchandises. Qui a été complètement bloqué vraiment plusieurs semaines, avec une répression de ouf. Il y avait plein plein de morts et de disparus à cet endroit-là, disparus qui ont été parfois retrouvés morts ensuite. Donc ça, c'est vraiment un truc hallucinant. Et aussi dans les villes, en tout cas à Cali, c'était les blocages en périphérie. Et donc tu empêches les choses de rentrer dans les villes. Et c'est aussi pour ça que ça s'est concentré dans les quartiers populaires, ou peut-être, je sais pas quel est le poule de l'œuf, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et donc avec des journées où tout d'un coup, hop, on ouvrait pour que les camions avec de la bouffe puissent rentrer. Et puis après, on refermait. Et donc vraiment, cette histoire de paralysie du pays qui, j'imagine, a joué aussi beaucoup dans la peur du basculement, en tout cas économique, ou dans la nécessité de répression extrêmement fort qu'il y a eu. Sur la répression, je dirais qu'à un moment, au moins on a parlé de 500 disparus. Ouais. Les histoires, moi je dirais que je préciserais aussi que les histoires de chiffres, ils sont vraiment données à la baisse, parce que les groupes qui donnent ça veulent pas être pris en défaut, donnent donc vraiment les chiffres qui ont été vérifiés. Donc on parle de X morts, parce qu'on pense peut-être qu'il y en a deux fois X, mais on a trouvé que X, donc on peut dire que ça. On parle de 80 en ce moment, c'est ça, 80, ouais. 100, je me souviens plus.
On parle de 80, et puis ouais, ça, bah, les disparus, il y a les disparus qui sont réapparus.
Ouais.
Et puis,
vivant ou mort.
Ouais, vivant ou mort. Et puis ça, puis c'est pas toujours facile d'accéder à cette information, parce qu'une des particularités, c'est qu'il y a des secteurs organisés historiquement, qui ont organisé toutes ces grèves dont je te parlais avant et tout ça. Mais quand il y a une explosion sociale qui a un caractère presque d'insurrection populaire, disons, la quantité de gens qui se retrouvent là et qui sont des gens qui sont pas nécessairement organisés, qui sont pas nécessairement dans leur qui c'est pas les assos de tout le temps qui s'organisent et tout, sinon que c'est plein de gens qui débarquent, et donc faire le suivi là-dedans des disparus, des gens emprisonnés, des ci, des ça, notamment pour les legal team, c'était un truc de fou, quoi. Réussir à identifier quel ok, ils ont emmené un gamin, on sait pas, il s'appelle comment et tout, ok, il est où. Essayer de retrouver parfois beaucoup d'informations dans les réseaux sociaux. Donc réussir à vérifier, ok, il y a ça qui a circulé dans le réseau social. Est-ce qu'à la même heure, il y a un autre truc qui a circulé, ça avait l'air un peu pareil. Est-ce que c'est une seule personne qui est disparue ce jour-là, ou est-ce que c'est deux personnes qui sont disparues? Tu sais, ça fait des trucs super compliqués avec toute cette question de légitimité des chiffres et tout. Les 100 personnes encore disparues, c'est les chiffres qui sont reconnus par des autorités. C'est-à-dire qu'on peut parler de beaucoup, 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 beaucoup plus. Et puis ça a vraiment beaucoup marqué. Puis je pense que notamment dans les gens plus jeunes qui étaient dans les mobilisations, ils parlent du fait que ça, en 2019, il y a un des tellement de gamins qui s'est fait tuer par l'anti-émeute, mais ils parlent de ce truc de voir des assassinats en direct, quoi. Avec les réseaux sociaux, tu sais, il y a un truc de... Puis c'est pas un truc de... Youpi, les réseaux sociaux, ça fait que c'est la révolution, là, c'est pas ça, mais c'est juste que ça crée des imaginaires quand même forts où tu vois les images, en fait, tu sais, de policiers qui en ont rien à foutre et qui tuent des gamins live devant des centaines de téléphones. Fait que ça a beaucoup marqué les imaginaires, et ça a beaucoup fait ce saut en termes de force de la mobilisation, parce que la rage, quoi. Parce que la rage, parce que non, parce qu'en fait, il n'y a pas à bouffer, il n'y a pas où vivre, il n'y a pas rien. Et puis en plus, si je me plains, on se fait tirer dessus, quoi. Donc il y a eu ça aussi.
Thank you.
Peut-être s'il y a moyen d'expliciter un peu rapidement en quoi ça consiste le ouribisme et du coup si c'est bien ça une des causes de la de cette mobilisation ou même des mobilisations précédentes.
La question de l'ouribisme ça va nous amener à plein d'autres choses parce que bon ce qu'on appelle ouribisme on appelle ça ouribisme parce que il y a un président qui s'est appelé en fait il s'appelle encore mais il n'est plus président. Álvaro Uribe Vélez, il rentre au pouvoir de 2002 à 2010, les 8 ans. Lui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une tendance de la droite qui est plutôt vers l'extrême droite, mais surtout qui a la particularité d'être très liée à une sous-classe de l'oligarchie ou la bourgeoisie, etc., qui sont les grands propriétaires terriens un peu à la cow-boy. Qui historiquement se sont organisés avec leur groupe de défense privé qu'on peut aussi appeler paramilitarisme. Donc c'est l'incarnation de cette droite qui a la main mise sur le narco. Si vous avez l'occasion d'aller voir, il y a une série documentaire qui vient de sortir qui s'appelle Matarife, qui raconte toute l'histoire du personnage et tout ça. Voilà quoi, le gars il était président. Et il n'avait aucun problème à dire dans les médias, genre, je sais pas, Amnesty International, c'est les trafiquants de droits humains au service du terrorisme international. Tu vois, ça donne le ton, tu vois, c'est le genre. À l'époque, Trump n'existait pas, donc ça avait l'air spécialement sauvage. Depuis, il y a des gens qui sont inspirés du style. Mais à l'époque, c'était un peu pété comme type de populisme de droite, un peu trashos, genre, on s'en fout, on va tous les péter, tu sais, un truc, tu dis pas ça. Alors voilà, maintenant, ici, les présidents, ils disent, on les emmerde, tu vois, ils disent des trucs qu'ils ne disaient pas avant. Donc ça a l'air moins choquant, mais entre 2002 et 2010, ça nous choquait plus. Hein, voilà, les choses évoluent. C'est en parlant que je me rends compte que, on est en 2022, c'est pas pareil. Ok. C'était comme si c'était un peu féodal, quoi, comme type, tu sais, un peu le genre c'est moi le patron ici tu sais puis ça tu ouais puis il y a des gens qui l'appellent comme ça elle patronne tu sais genre le ouais c'est le du coup c'est un peu ce avec bon avec tout ce que ça a de machiste et patriarcal en plus si on va rajouter une couche mais bon bref il y a ça ça a été le gouvernement pendant 8 ans ensuite il y a eu le mandat donc de l'oligarchie un peu plus classe tu sais ils ont l'air un peu plus gentils et tout ils font pareil hein, sur le plan du capitalisme et tout il y a zéro nuance mais quand même, il y a un truc différent. C'est dans ce contexte-là qu'il y a les négociations avec les FARC. Tout ça se complémente bien, hein, puisque lui qui était président après Santos, c'était le ministre de la Défense sous le gouvernement d'Uribe. Ils s'entendent pas mal. Mais du coup, sous le gouvernement d'Uribe, pam, 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 on fait les méchants et on défonce la guérilla militairement. Et quand c'est moi qui suis président, bah, là, on fait des négociations de paix et on se gagne un prix Nobel. Du coup, tu vois, on va pas faire semblant que c'est des trucs super différents, mais ça a quand même des nuances. Donc quand on parle de l'ouribisme, c'est vraiment cette tendance populiste d'extrême droite qui a créé un peu, et ils ont investi beaucoup dans les médias et tout ça, pour dire, en fait, on a un truc qui font notre unité, on a deux choses qui font notre unité nationale en Colombie. Un, c'est qu'on a une équipe de football qui est au mondial, et deux, on a un problème en commun, c'est la guérilla.
Okay.
Donc ils ont vraiment créé une espèce de, d'unité. Là, il y a des élections qui viennent, et donc après les mobilisations, souvent il y a les élections, et donc il y a des gens dans les mobilisations qui disent il faut absolument s'investir dans les élections pour que ce qui s'est passé dans la rue, ça se transpasse dans les urnes. Il y en a d'autres qui disent oui, mais il se passe jamais rien d'important dans les urnes pour le peuple et on se fait toujours avoir. Donc voilà, c'est pas vrai. Mais bon, il y a tout ça, ça a lieu. Et notamment, il y a une candidature qui est allée au deuxième tour aux dernières élections il y a 4 ans, d'un type qui a un programme voilà, social-démocrate, on pourrait dire, sur certains aspects, qui n'est pas, pas radical ni, ni rien. On ne va pas dire que c'est un truc révolutionnaire, mais c'est quand même quelqu'un qui, il y a 30 ans, s'est démobilisé dans le cadre d'un accord de paix d'une guérilla qui s'appelait le M19. Donc quand même symboliquement, tu vois, c'est un ancien de guérilla lutte armée des années 90 qui est candidat au présidentiel. Donc quand même, ça fait un truc différent substantiellement. Et donc c'est un peu un projet qui s'oppose à ce qu'on appelle l'uribisme au nom de ce président-là.
Vrai. Sinon, on peut aussi dire en fait que l'uribisme et le... On dit pas le centisme, mais l'uribisme...
On dit, ouais.
On dit l'uribisme et l'autre truc de droite sera un peu genre... les nouveaux riches qui sont enrichis sur l'accaparement de terre via le paramilitarisme contre les familles traditionnelles qui ont toutes les vieilles entreprises et tout ça et qui ont une vraie compétition économique entre elles
entre industriels et le pouvoir
et puis et en plus il y a Uribe là, qui commence à se faire rattraper à fond par ces histoires de justice, donc il y a aussi des enjeux à garder le pouvoir pour pouvoir bloquer et pas se retrouver bêtement condamné.
C'est une famille, la famille d'Uribe, ils étaient propriétaires des pistes d'avion pour faire sortir les chargements de cocaïne. Je veux dire, le narcotrafic, c'est les gens qui ont de l'argent et qui ont les moyens de contrôler des avions, des bateaux et des trucs. C'est pas les petites frappes du coin de la rue qui font du narcotrafic. Voilà, le narcotrafic, c'est ça et le trafic d'armes et le trafic du corps des femmes et des enfants. C'est comme les gros business qui font marcher le capitalisme, en fait, finalement, et puis qui soutiennent son économie. C'est tous ces intérêts-là qui sont là.
Et est-ce qu'on peut dire que les mobilisations qu'il y a en ce moment, ça découle de ce contexte politique ?
Parce que l'uribisme, c'est un outil dans ce truc global qui est d'imposer un capitalisme mondial qui fait qu'il y a des pays qui doivent sortir des matières premières et avoir de la main-d'œuvre toujours plus exploitable, donc avoir des gens toujours plus désespérés, plus prêts à mettre leur vie en danger pour migrer à d'autres pays, etc., etc. Ça se base là-dessus.
Oui.
Mais je pense que oui, c'est un truc. En tout cas, moi, je me rappelle que c'était super fort. La première fois où je suis allée sur un blocage, dans les premiers jours, on allait accompagner et tout. Il était genre minuit, tu sais, des trucs genre « Oh ouais, ils vont se faire entrer dedans par la police, on y va, machin. » Et il y avait des types super jeunes, tu vois, 15-16 ans, qui avaient... Bon, je dois le dire comme ça, moi, je suis une blanche qui habite en Colombie, qui a quand même son petit air de petite bourge proportionnellement au truc. Du coup, il y avait quand même des jeunes, si je les avais croisés dans la rue, j'aurais peut-être changé de trottoir, il faut le dire comme ça. Mmh. Et là, soudainement, c'est ces jeunes-là qui sont là et qui font juste gueuler et qui disent « Nous, en fait, on en a ras-le-bol, vous nous avez enlevé même l'espoir de pouvoir vivre, donc on se fait tuer ». On est contraint à la délinquance, la criminalité et un futur de merde. On a accès à rien et en fait, il y avait aussi une rage envers leurs parents qui ont peut-être pu être uribistes alors qu'ils sont super pauvres et tout. Et un espèce de truc, ouais, mais en fait, ras-le-bol. Et c'était mignon, ils disaient, on veut faire la révolution, c'est une révolution de l'amour qu'on veut faire, on veut pouvoir regarder nos voisins puis être content de les voir puis tout, tu sais, puis tu sais. Le gars comme qui parle et tout, tu t'attendais pas tout à fait à un truc aussi peace and love qui puisse raconter. Mais tu sais, je me rappelle de cette anecdote là quand tu poses cette question là, parce que je pense que oui, c'est des types de gouvernements qui exacerbent tellement les contradictions, qui mettent sous une pression tellement forte qu'à un moment donné ça pète.
Yeah.
Dans l'immobilisation, comme toujours, il y a toutes sortes de choses qui se jouent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà organisés sur un territoire et qui ont déjà leurs histoires et qui vont apporter ça. Donc c'est là qu'il y a des gens qui s'organisent autour de plans de bibliothèques autonomes et tout. Et ça, c'est devenu un truc très symbolique de récupérer des postes de police pour en faire des bibliothèques. Tout comme tu vas avoir des artistes qui sont engagés et qui décident donc que la façon de contribuer, c'est faire des nouveaux monuments. Et alors ça, la question des monuments, ça a été fort parce que, comme ailleurs sur le territoire de ce qu'on appelle les Amériques, en ce moment, il y a un gros mouvement de faire tomber les statues des colons, donc changer les symboles. Donc là, il y a une partie de l'action qui est faire tomber la statue et l'autre partie qui est faire d'autres monuments, donc notamment le monument de la résistance à Cali, qui a été l'œuvre de plusieurs artistes. C'est ça, mais il y a aussi voilà, toute la partie médicale, faire des trucs alternatifs d'accès à la santé, parce que si tu vas à l'hôpital, tu te fais prendre par la police. Il y a toutes sortes de façons, et dans un truc aussi gros, il se passe des centaines de trucs tous les jours.
Ouais, bien sûr.
Au-delà de la barricade, qui est un symbole fort, important, et des barricades sur laquelle, par ailleurs, il se passe plein d'autres choses. Sur la barricade, il y a aussi des ateliers, il y a des discussions, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui font de la radio, il y a des gens qui discutent, tu vois, il se passe toutes sortes de choses. Alors après, c'est sûr que quand tu filmes, quand tu fais un reportage et tout, bah, il y a souvent la barricade au moment où ça pète, parce que voilà, ça fait des images plus spectaculaires et on n'est pas à l'abri de ce genre d'influence quand on filme et quand on reproduit des trucs. Et c'est plus visible, mais il se passe toujours toutes sortes de choses par toutes sortes de milieux, avec les gens qui étaient déjà organisés, les gens qui étaient déjà dans des histoires politiques et tout ça, les gens qui pas du tout, et la rencontre entre tous ces gens là et le fait que des fois c'est pas une belle rencontre, des fois c'est une belle rencontre et des fois c'est pas une belle rencontre, et aussi les défis, plein de gens qui dorment, vivent, mangent tout ça pendant des semaines sur des barricades, parfois sans dormir. Aussi parfois des gens qui ont des habitudes de consommation de toutes sortes de substances qui peut poser des difficultés, le fait qu'on vit dans un monde patriarcal terrible dans lequel on n'a pas encore aboli la question des agressions sexuelles, donc ça peut se présenter aussi. Il y a aussi toutes sortes de contradictions, c'est-à-dire qu'il y a dans ces poussées, disons, de sociales, de type insurrection populaire, tu retrouves l'ensemble des contradictions. Mais c'est ça aussi qui en fait un moment créatif et important dans la vie de plein de gens, quoi. C'est que soudainement, tout est possible.
Ouais.
T'sais, soudainement, tout ce qui est la normalité se trouve à voler en éclats. Et ça ouvre plein de champs des possibles, quoi, qui peuvent être investis de toutes sortes de façons par toutes sortes de personnes.
Ouais, moi, je dirais ça. D'amis ou d'enfants d'amis, beaucoup d'enfants d'amis, qui disaient qu'en fait, ils allaient sur les points et trouvaient de toute façon une façon de faire quelque chose. Beaucoup par les créations artistiques, que ce soit effectivement de la construction de monuments, de la peinture, mais aussi du chant, du théâtre. Vraiment, elle avait l'impression, comme les gens en parlent, que de toute façon, ils trouvaient une place et quelque chose à faire avec d'autres gens. Et aussi, par rapport à ce que tu disais avant, sur les points de concentration, on a l'impression que ça a vachement cristallisé au sens positif des regroupements de gens qui étaient déjà là, entre voisins, entre voisines, notamment pour tout ce qui est apport de la bouffe, cuisine de la bouffe, et que tu as vraiment l'impression que, et à la fois, ça profitait de la solidarité ou de la connaissance qu'avaient déjà les gens dans ces quartiers qui étaient souvent des quartiers populaires, et ça l'a consolidé à Oun, je dirais.
Encore plus.
Encore plus. Moi, je peux juste rajouter une anecdote, à moins que tu veux développer. Vas-y. Une des premières lignes de Bogota qui s'est créée en 2019, donc à l'heure du dernier, mon dernier voyage en Colombie, j'étais à Bogota et j'ai fait de l'accompagnement avec eux, qui était dans une activité totalement autre que la manifestation. C'est-à-dire que c'était le début de la pandémie, le début du confinement, et on a été apporter de la bouffe, vraiment en distribution de bouffe dans les quartiers, là où il y avait déjà des contacts. Donc c'était pas non plus au pif comme ça, c'était pareil, travail quartier. On a aussi été sur des histoires d'empêcher des expulsions de terrain, donc travail de confrontation, au sens on est là physiquement, mais discussion juridique, d'essayer de bloquer l'expulsion, pas en type d'émeute, quoi, c'est ça que je veux dire. Et aussi, on a fait quand même quelques manifs où ils sont là en première ligne. Des fois ça se passe bien, une fois on se fait défoncer, mais sinon, tout ça pour dire qu'en fait l'activité première ligne, ça se veut en tout cas pour l'ego, ça se veut au-delà de juste le bouclier dans les PC. Concrètement, pendant les manifs, ça avait l'air d'être organisé comme ça, genre première ligne avec les boucliers en protection, deuxième ligne qui jette toutes sortes de projectiles, troisième ligne avec les lasers là, pour bloquer la vision des flics, et après les lignes qui amènent les projectiles, qui font la bouffe, qui amènent la bouffe, etc. Ça a l'air très, très organisé tout ça.
Ouais.
Et tout à l'heure, tu parlais de résistance, enfin de défense des terres. Et est-ce que vous avez observé des points de convergence entre plutôt des mobilisations rurales et des mobilisations urbaines?
Beaucoup. En fait, c'est beaucoup ça qui a caractérisé ce moment de lutte 2021 par rapport à d'autres expériences qui étaient peut-être plus rurales ou exclusivement urbaines, si elles étaient étudiantes, tu vois. Des trucs qui étaient comme plus sur d'autres agendas à séparer. Et là, il y a eu une convergence. Notamment la garde autochtone dans la région entourant Cali, qui a décidé de faire de son point de mobilisation central la ville de Cali plutôt que être à l'extérieur, même s'ils étaient quand même aussi à l'extérieur et tout, mais une attention spécifique à faire une présence en ville, notamment là, et aussi à Bogota, le lien entre donc, ce qu'on appelle la garde autochtone, donc qui est cette brigade, disons, non armée. Dont l'autorité communautaire est représentée par un bâton, donc quand on les voit dans des images et tout, qui ont une trajectoire de 20 ans avec une logique d'autogouvernement sur les territoires et tout, et qui sont entrés en relation avec les premières lignes d'ailleurs depuis 2019 pour entrer dans un dialogue de bon, ça veut dire quoi vous les jeunes là, ça veut dire quoi cette histoire d'avoir ce pouvoir en fait de vous organiser, de faire cette première ligne, de pouvoir confronter ou non et tout ça, c'est quoi votre responsabilité vis-à-vis de votre communauté là-dedans? Alors ça s'est passé par des cérémonies traditionnelles autochtones d'harmonisation comme on l'appelle, mais aussi par des écoles de formation ensemble pour discuter de c'est quoi notre perspective sur comment on fait ça et tout, donc ça a fait tous ces liens là. Après, il y a un lien concret qui est la bouffe, quoi. La bouffe, elle se produit à la campagne, elle se mange à la ville. Donc, faire venir de la bouffe sur les points de concentration, ça a été un truc important aussi. Je ne sais pas si j'oublie des choses dans ce lien ville-campagne. Mais c'est ça. Il y a eu des points de mobilisation aussi beaucoup à la campagne, mais ça, c'est plus le truc ordinaire en Colombie,
ouais.
Plus le normal.
Juste dire peut-être que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'endroits, des paysans mobilisés, enfin organisés, qui font de la production de légumes et de fruits destinés essentiellement au prochain blocage.
Ah ouais, d'accord.
C'est-à-dire que c'est prévu à l'avance. Et puis du coup, quand ils vont au blocage, ils amènent leur provision qui a été cultivée sur un ou plusieurs champs dédiés à ça. Quoi.
Okay. Ouais, puis les gens, ils le savent. Quoi. C'est dès qu'ils reviennent de la mobilisation, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils ressèment pour la prochaine mobilisation.
Ouais.
C'est pas grave si c'est à la prochaine récolte, dans trois récoltes. De toute façon, tu continues à avoir tes champs et sinon, tu vends la production pour avoir un fonds pour les mobilisations. Ça, c'est le truc normal quoi, dans plein de régions, historiquement.
Et donc ça, c'est assez récent, ce lien ville-campagne?
C'est assez récent qu'il y ait des mobilisations de telle ampleur en ville.
D'accord.
C'est ça qui est le plus récent.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Donc, par définition, ça augmente l'intensité du lien ville-campagne s'il y a plus de choses qui se passent en ville, donc il y a plus d'échanges.
Ok. Eh bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait des points qui vous semblent importants qu'on n'aurait pas abordés?
Je pense qu'on a pas mal tout abordé. Là. Je pense que ça, l'idée fondamentale, c'est de se dire que si on parle de la Colombie, c'est pas juste parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs, mais c'est parce que c'est justement pour faire des liens, tant dans nos analyses, notre compréhension du système auquel on fait face et de comment on veut lutter, et parce qu'on veut faire ces échanges pour s'inspirer et tout ça, fait que c'est pas un truc ah tiens cette chose qui se passe loin, mais aussi pourquoi en fait faire tous ces liens et pourquoi aussi ça intéresse par exemple des gens qu'on est plus sur les trucs de la Colombie, ça peut nous intéresser que les gens nous racontent d'autres trucs qui se passent à d'autres endroits dont on n'est pas capable avec notre cerveau de faire le suivi sur autant de trucs, mais c'est avoir cette habitude de tisser des liens, de faire des comparaisons, de comprendre et tout ça. je pense que dans la discussion, quand on a montré le documentaire, c'était un des trucs intéressants, qu'il y a des gens qui sont sur plein de luttes différentes et qui avaient envie de faire ce lien-là. Fait que ça, c'est pour ça que c'est bien de faire ces échanges et de parler de ça, quoi. Voilà, mot de la fin.
Voilà.
Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était super intéressant.
Merci, c'est très bien de pouvoir raconter des histoires sans histoire.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 FM, c'est l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. On va passer du coup à l'agenda pour ce début de mois. Alors on commence tout de suite avec ce soir l'émission féministe Le Gang des Gazières qui nous prépare un tour d'horizon sur les anciennes et nouvelles drogues, sur leurs usages et la réduction des risques. C'est de 20h à 22h sur Radio Galère.
Et c'est dans le cadre de la quinzaine stupéfiante où vous pouvez retrouver le programme de la quinzaine stupéfiante sur Face de MOOC.
Exactement.
Alors demain, c'est demain le 7 avril ?
C'est demain.
Ok, le 7 avril, il y a Zone Infinie, mais qu'est-ce que c'est ?
C'est un groupe de punk de Saint-Etienne et Lyon.
Eh ben dis donc, heureusement qu'il est là. À la Salle Gueule. La Salle Gueule, c'est 8 rue d'Italie.
Eh ouais. Alors, demain toujours, il y a la première présentation et débat d'un cycle de réflexion et de lutte contre la gentrification. Ça se passe à la DAR à 18h30. Et la DAR, c'est 127 rue d'Aubagne.
Ok, donc on continue toujours le 7 avril. Mais il y en a des trucs demain.
C'est que demain.
Et il va falloir choisir.
Ouais.
Ok, donc demain, le 7 avril, toujours, il y a un bar de soutien au snack à partir de 19h en soutien au collectif Parastou. Alors Parastou, c'est un collectif qui propose des permanences hebdomadaires pour les meufs gouin trans exilés au snack qui est 1 rue Espérandieu.
Et le 8 avril, on a la cantine de soutien à la Legal Team. C'est à 19h30 à Manifestaine, 59 rue Thiers. Donc la cantine de soutien, ce mois-ci, c'est... en fait, je viens de le dire, la Legal Team. Mais par contre, la Legal Team, c'est quoi ? C'est un collectif de soutien juridique pour les personnes touchées par la répression dans le cadre de mouvements de lutte et d'émancipation. Le but, c'est de proposer des outils d'information sur les droits en garde à vue, d'accompagner les personnes prises dans l'engrenage police-justice et leurs proches afin qu'elles prennent le moins cher possible, de les mettre en lien avec des avocats et des avocates et de recenser les arrestations et puis plus généralement d'aider à comprendre le fonctionnement judiciaire afin que chacun, chacune puisse se démerder dans cette grosse machine à broyer. Alors soyons nombreux et nombreuses pour les soutenir. Il y a grave besoin, les caisses sont vides et les commissariats et tribunaux et leur justice de classe tournent à plein régime.
Et là, oui, on a vraiment besoin d'argent parce qu'au carnaval dernier, il y a eu plusieurs arrestations. Et du coup, des gens se sont fait donc arrêter, sont passés devant la justice, ont pris des peines de sursis et des amendes. Et il y a aussi les avocats qu'il faut rincer.
Et ouais, c'est pas gratos tout ça. Et donc allez-y, remplissez-vous la pense et videz vos poches.
Ah bah bravo.
C'est bien dit, non?
Tu l'as trouvé là tout de suite?
Ouais, comme ça on apprend.
Attends, t'es bon toi. Ok, bon bah c'est fini. Qu'est-ce que c'est? C'est fini?
C'est fini. Et ben du coup on vous dit merci d'avoir écouté et puis ben...
On vous retrouve le mois prochain.
Le mois prochain.
Donc le premier mercredi du mois, c'est l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. En attendant, on vous souhaite un bon mois d'avril. Et comme on dit en avril.
Ah non.
Tu vas le dire.
Ah non,
en avril.
Non, moi je le dis pas, je le dis pas.
Ne te découvre pas d'avril.
Allez, ciao ciao.
Bisous.